Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs, du lundi au vendredi sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce que la notion d'emprise apporte à la compréhension des violences faites aux femmes? Deux des actrices qui ont accusé le producteur américain Harvey Weinstein de violences sexuelles, Salma Hayek et Asia Argento, ont employé à son propos le terme d'emprise. La comédienne Adèle Haenel, dans l'entretien qu'elle a accordé récemment au site Mediapart, a utilisé le même mot, emprise, pour qualifier la relation qu'a entretenue avec elle le réalisateur Christophe Ruggia. Dans son livre publié aujourd'hui, Le Consentement, dans lequel elle raconte la relation qu'elle a eue alors qu'elle avait 14 et 15 ans avec Gabriel Malzneff, l'écrivaine et éditrice Vanessa Springora titre également son troisième chapitre ainsi, l'emprise, avant un quatrième intitulé La déprise. Le temps du débat va essayer ce soir de comprendre comment ce terme venu de la psychanalyse est désormais entré dans le domaine du droit et bientôt de la loi pour qualifier un certain type de domination. Nous en parlerons avec nos quatre invités. Zoé Royaux est avocate, porte-parole de la Fondation des Femmes. Alain Ferrand est avec nous en duplex depuis Lyon. Il est psychologue, psychanalyste, professeur honoraire en psychopathologie et psychologie clinique à l'Université de Lyon 2. Marie-Rose Moreau est avec nous en studio. Elle est psychiatre pour enfants et adolescents, psychanalyste et professeur à l'Université Paris-Descartes et chef de service à la Maison des Adolescents de l'hôpital Cochin. Et Bérangère Couillard sera avec nous au téléphone. Elle est députée La République En Marche de la 7e circonscription de Gironde et fait partie de celles et ceux qui vont porter justement cette question dans la loi, dans le code pénal et dans le code civil. Ça sera au mois de janvier.
Nous inscrirons aussi dans le code civil et dans le code pénal la notion d'emprise. L'emprise conjugale, c'est la prise de possession d'un membre du couple par l'autre. Une prise de possession qui s'installe de manière progressive et implacable, parfois même sans que la victime s'en aperçoive, et qui s'apparente, on utilise l'expression, elle est terrible, à un enfermement à l'air libre. En le caractérisant dans la loi, on va dire à ces femmes qui sont victimes de cette emprise, vous n'êtes pas à l'origine de ce qui vous arrive, vous en êtes les victimes, et on traite ainsi les violences physiques et psychologique, étant entendu que la violence psychologique est souvent le préalable à la violence physique.
Vous l'avez reconnu, il s'agissait du Premier ministre Édouard Philippe le 25 novembre dernier, en conclusion du Grenelle contre les violences conjugales, qui utilisait ce terme d'emprise, donc enfermement en plein air, disait-il, à propos justement de ce qui pouvait se passer à l'intérieur d'un couple. Nous allons élargir cette question pas simplement dans les rapports entre un homme et une femme, mais également entre un adulte et une jeune fille, parce que c'est le cas effectivement de ce qui est raconté dans le livre Le Consentement de Vanessa Springora. Lorsque vous avez entendu ce discours, Zoé Royaux, vous qui êtes avocate et porte-parole de la Fondation des Femmes, vous vous êtes dit il y a un pas d'accompli quand on utilise ce terme d'emprise, et peut-être va-t-on le faire rentrer dans la loi bientôt?
Oui, c'est un progrès. La loi a une vertu pédagogique, une vertu éducative. Donc, c'est pas simplement du symbole, les mots. C'est de reconnaître un phénomène et un processus qui existe déjà et qui, c'est vrai, est en général, et c'est le principe de l'emprise, antérieur. C'est les prémices des violences psychologiques. Et donc, c'est important de pouvoir donner des clés de lecture complémentaires pour les acteurs, en tout cas en ce qui me concerne, les acteurs de la chaîne pénale, pour comprendre le mécanisme des violences psychologiques qui se voient moins que des violences physiques. Donc c'est un progrès.
Bérangère Couillard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche de la 7e circonscription de Gironde et vous allez porter avec d'autres justement traduire dans la loi cette question de l'emprise. Comment s'empare-t-on d'un terme qui est un terme délicat à définir? On va tenter de le définir dans un instant avec nos deux autres invités qui sont psychiatres et psychologues et psychanalystes. Comment s'empare-t-on d'un terme comme celui-ci pour pouvoir le transcrire dans le droit?
Déjà, nous, c'est vrai que c'est parti aussi d'un constat sur le terrain, hein, avec à la rencontre des associations, des victimes aussi, hein, de violences conjugales, qui nous exprimaient toujours cette notion d'emprise, d'être dans une incapacité, en fait, de pouvoir prendre une décision pour elles-mêmes, pour le bien d'elles-mêmes et parfois même pour le bien de leurs enfants. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de violence psychologique qui est exercée surtout pour les femmes victimes de violences conjugales, et qui les empêchent de faire ce pas-là. Donc à nous de le traduire justement dans la loi, parce qu'aujourd'hui, en tous les cas, la notion d'emprise n'est pas définie dans le code pénal et dans le code civil.
Et est-elle définie, Alain Ferrand ? Bonsoir, vous qui venez d'arriver dans les studios de Lyon de Radio France, et nous remercions qu'il vous accueille justement. Alain Ferrand, est-elle définie, vous qui êtes psychologue, psychanalyste et spécialiste de cette question de l'emprise dans le domaine psychologique et psychanalytique ?
Bonsoir, désolé pour ce retard indépendant de ma volonté.
Je vous en prie, reprenez votre souffle.
La question de l'emprise, je dirais qu'elle est neutre. Elle n'est en soi ni bonne, ni mauvaise, ni positive, ni négative. L'emprise, c'est un processus qui participe au développement de l'individu, au développement psycho-corporel de tout individu. En ce sens, elle permet de construire la maîtrise de son propre corps, elle permet aussi de construire la maîtrise du monde, et elle joue un rôle extrêmement important dans le développement et dans l'autonomie de chaque individu.
Mais vous dites que ça ne peut pas être ni bien ni mal, mais néanmoins, on l'utilise, quand on l'utilise dans les termes dans lesquels on l'utilise maintenant, dans ces questions des violences faites aux femmes ou aux jeunes adolescentes, eh bien on l'utilise dans un terme négatif, en l'occurrence,
tout
le terme d'emprise.
Mais il ne s'agit pas de l'emprise en elle-même, il s'agit de conduite d'emprise, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que l'emprise qui se développe pour tout individu, elle rencontre les parents, elle rencontre les autres êtres humains, et donc elle se tempère, elle s'assouplit, elle se modère en quelque sorte. Par contre, lorsqu'il y a un certain nombre de difficultés très précoces qui sont rencontrées par le petit bébé, cette emprise ne trouve pas sa satisfaction, elle ne peut pas se modeler, se modérer d'une certaine façon, et elle risque à ce moment-là de se déchaîner. Et là, ça donne naissance à ce qu'on appelle des conduites d'emprise, qui sont des conduites tyranniques, qui instrumentalisent autrui, voire le détruisent. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent absolument pas compte de l'altérité, de la personnalité de la personne, de l'objet, comme on dit dans notre jargon, et qui, donc, disqualifient totalement l'autre en tant qu'être humain. Ça, ce sont des conduites d'emprise extrêmement pathologiques.
Marie-Rose Moreau, on le disait, bonsoir, vous êtes psychiatre pour enfants et adolescents, psychanalyste et professeur à Paris Descartes, mais également chef de service de la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, autrement appelé Maison de Solène, je crois.
C'est ça.
Et donc, dans les cas que vous rencontrez, justement, en tant que psychanalyste et psychiatre pour enfants, est-ce que cette notion d'emprise, vous l'utilisez régulièrement ? Est-ce que d'abord, vous pouvez nous la définir, comme vient tenter de le faire Alain Ferrand ? On précisera ensuite.
Alors, effectivement, je l'entends fréquemment entre les adultes et les enfants, entre les adultes et les adolescents. Et si on devait la définir très effectivement, le premier point, c'est celui qui concerne l'altérité, c'est-à-dire ne respecter, lorsqu'on ne respecte pas la différence entre un adulte et un enfant, entre un homme et une femme, lorsqu'on abrase la singularité de l'autre, ses besoins, sa manière d'être, eh bien, lorsqu'on exerce sur lui ce type de processus et d'action, eh bien, on a une emprise et on détruit l'autre.
La conduite d'emprise dont parlait à l'instant Alain Ferrand.
En tous les cas, c'est l'aspect négatif de l'emprise, c'est cette manière d'abraser, de ne pas tenir compte de la différence et de la distance qu'il y a entre un adulte et une jeune fille, et de vouloir imposer à cette jeune fille une violence.
Est-ce que pour cela, ça ne vous apparaît pas un peu délicat de faire entrer dans le domaine de la loi, on en discutera dans un instant avec Zoé Royot et Bérangère Couillat, dans le domaine de la loi, justement, ce terme-là qui, visiblement, à l'intérieur même du milieu psychanalytique, du milieu psychologique, des psychiatres, etc., n'est pas totalement stabilisé, pourrait-on dire. Donc, quand on parle d'emprise, on ne sait pas exactement de quoi on parle, enfin, on n'a pas encore défini totalement ce que c'est entre les professionnels, pourrait-on dire, de ce milieu.
Alors, d'un point de vue clinique, c'est bien défini.
C'est bien défini.
On le reconnaît très facilement dans le discours, dans le récit qu'en font les jeunes filles, par exemple. Mais si on prend ce mot et qu'on le met dans le domaine juridique, évidemment, il faut le reconceptualiser. Il ne faut pas simplement l'utiliser comme une métaphore, mais il faut définir d'un point de vue juridique qu'est-ce que cette emprise psychologique entraîne.
A comme conséquence, en l'occurrence. Zoé Royot.
Oui, alors c'est effectivement très bien que l'emprise, alors il faudra voir comment elle est définie, c'est important juridiquement. Le principe, c'est de ne pas enfermer les magistrats ou les policiers ou les gens ou le service de gendarmerie dans une définition qui serait trop restrictive et qui poserait des problèmes en termes de preuves. Mais ce que fait le gouvernement là, avec à l'issue du Grenelle, c'est pas non plus complètement révolutionnaire. La France, depuis 2010, sanctionne les violences psychologiques dans le couple, précisément. Donc là, simplement, encore une fois, c'est une clé de lecture qui peut être donnée au service de police et de gendarmerie, et notamment pour éviter de juger et de considérer comme ambivalent le comportement d'une victime qui n'irait pas déposer plainte. On pourrait se dire, si elle y va pas, elle est là depuis 10 ans avec cet homme, c'est qu'elle est très heureuse après tout, ou qui retirerait sa plainte et on se dirait, finalement, elle a menti ou elle regrette. Je pense que, en ce qui concerne l'aspect juridique, c'est ça qui est important. C'est de considérer, de comprendre, en fait, cet enfermement dans lequel sont plongées les victimes de violences psychologiques qui sont très difficiles, encore une fois, à caractériser et à déterminer.
Bérangère Couillard, vous qui êtes députée LREM de la 7e circonscription de Gironde et qui portait avec d'autres justement cette transcription dans la loi et dans le code pénal et le code civil de cette notion d'emprise.
Oui, Madame Royot a raison. C'est vrai qu'il faut absolument bien définir pour éviter que ce soit trop restrictif. On a parlé évidemment de l'harcèlement moral qui du coup va être alourdi aussi au sein de cette loi avec l'article 7 notamment qui prévoit en fait qui parle de la notion de suicide forcé et qui donc on va permettre de mieux du coup définir ce suicide forcé avec l'alourdissement des peines en cas d'harcèlement moral. Concernant la notion d'emprise, c'est vrai qu'elle va être délicate à définir. Il va falloir être extrêmement précis sur sa définition et du coup, toutes les auditions que nous allons mener à la reprise de l'examen juste avant en commission va nous permettre de mieux définir cela. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on souhaitait, c'est s'assurer que les personnes sous emprise puissent être aidées. Et notamment, on a l'article 8 qui prévoit le signalement par les médecins. Il y a eu une levée de bouclier de certains professionnels de santé qui remettaient en cause le fait que qu'il puisse y avoir un signalement des médecins pour une femme, par exemple, qui serait donc sous emprise et qui serait en danger immédiat. Mais nous pensons que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui passent 6, 7, 8 fois la porte des urgences, qui voient 6, 7, 8 médecins différents, parfois même les mêmes. On sait que ce sont des personnes victimes de violences conjugales, mais on les laisse repartir chez elles parce que ces femmes sont sous emprise et ne déposent pas plainte. Donc il va falloir être évidemment extrêmement précis dans la définition de l'emprise, mais à nous d'être au plus précis et du coup nous aurons évidemment les professionnels de la justice pour nous aider à mieux le définir.
Zoé Royot.
Oui, merci. Ce qui est important aussi, parce que là on parle de la définition de l'emprise qui sera faite, mais ce qui est important, c'est qu'à l'issue de ce Grenelle, le gouvernement a proposé 4 mesures qui tournent autour de l'emprise. Madame la députée vient de le dire, c'est la levée du secret médical lorsque le médecin reçoit en consultation une femme dont il considère qu'elle est dans un danger absolu et sous emprise, donc en incapacité d'aller déposer plainte. C'est aussi effectivement le harcèlement moral qui sera aggravé lorsqu'il a conduit à un suicide forcé. En 2018, on a 217 femmes qui, victimes de violences psychologiques dans le couple, se sont suicidées. Et puis c'est aussi la fin des médiations pénales, donc l'alternative aux poursuites qui permettrait de négocier éventuellement entre l'auteur et la victime. On n'est pas à égalité avec l'auteur, donc c'est la fin des médiations pénales, c'est fondamental. Et c'est aussi le fait d'encadrer la délivrance des permis de visite lorsque l'auteur est condamné pour des violences conjugales, de faire en sorte que sa femme ne puisse pas forcément aller le voir en détention pour éviter ce maintien de l'emprise à travers les barreaux de la prison. Ça, ce sont des mesures qui me paraissent être concrètes et efficaces.
Quand il s'agit de définir justement cette emprise, Alain Ferrand, vous qui êtes psychologue qui avait travaillé beaucoup sur cette question-là. Vous nous avez parlé de ce lien avec la tyrannie, c'est-à-dire cette emprise qui, d'un seul coup, donc devient tyrannique. Comment on peut le décrire? Si on lit, par exemple, l'ouvrage de Vanessa Springora, qui vient juste de sortir aujourd'hui, et qui sera d'ailleurs, Vanessa Springora sera invitée au Matin de France Culture demain matin pour parler de ce témoignage. Elle dit, par exemple, que j'ai, puisque c'est ainsi qu'elle l'appelle dans son livre, qui est donc beaucoup plus âgé qu'elle, entreprend un jour de l'aider à rédiger une dissertation et que c'est lui qui rédige la dissertation, c'est elle qui l'écrit sous sa dictée et que la dépossession, dit-elle, commençait comme ça, entre autres choses, l'écrivain c'était lui ou encore, elle dit, je rêvasse au privilège d'avoir rencontré un homme de lettres si talentueux, si brillant aussi, en réalité c'est le souvenir de son regard sur moi qui me donne des ailes et peu à peu je me transforme. Est-ce que cela, ça peut être un symptôme de justement cette relation d'emprise entre un adulte, en l'occurrence, de plus de 50 ans, et une jeune fille de 14 ans.
Oui, c'est effectivement une des possibilités. C'est-à-dire que il faut bien, je reprends ce que disait Marie-Rose Moreau tout à l'heure, il faut bien comprendre que l'emprise, les conduites d'emprise pathologiques, visent au fond à détruire le sujet, à lui enlever toute son originalité, toute capacité de réaction autonome. Mais cette emprise peut se manifester de deux façons. Ça peut être une emprise apparemment douce. Et c'est un petit peu ce que raconte l'écrivain dont vous parlez, Vanessa Springora. C'est-à-dire que son mentor, en quelque sorte, fait preuve de beaucoup de délicatesse, de beaucoup de douceur. Il écrit, il rédige une dissertation, etc., etc.
Oui.
Et elle se laisse en
quelque
sorte...
Sauf dans leur rapport sexuel,
Voilà. Sur ce plan-là, sur ce point-là, effectivement, il fait preuve de beaucoup de délicatesse, entre guillemets. Mais il ne faut jamais oublier que derrière cette délicatesse, c'est une violence désubjectivante qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il vampirise véritablement Vanessa Springora. Mmh. C'est-à-dire que cet homme de 50 ans s'empare en quelque sorte de son innocence, de sa subjectivité, et s'en sert comme des instruments pour son propre plaisir. Mmh. Et puis il y a une autre forme d'emprise, c'est une emprise beaucoup plus violente, beaucoup plus tyrannique, qui en quelque sorte n'avance pas masquée comme celle qu'on vient d'évoquer. C'est une emprise qui est effectivement destructrice tout autant de la personnalité de l'autre. Mais ce qu'il faut pas oublier, et je reviens à ce qui vient d'être dit, c'est que ce que cela provoque chez la victime, c'est d'abord un sentiment de honte. Et la honte pousse à s'enfuir, à se cacher, à disparaître 6 pieds sous terre. C'est-à-dire que la conséquence de l'emprise, c'est un sentiment de honte qui taraude considérablement les victimes, et pendant des années.
Marie-Rose Moreau, cette emprise, elle se caractérise aussi par le fait qu'il y a, entre guillemets, un entourage qui ne réagit pas à ce type d'emprise. C'est ce que raconte aussi Vanessa Springora dans son livre. C'est sa mère qui, accepte cette relation après avoir dit dans un premier temps que le G en question, Gabriel Manzaneff, était un pédophile, mais accepte cette relation pendant le temps où elle dure avec sa fille, qui regrette presque à la fin, dit Vanessa Springora, que cette relation s'interrompe. Il y a aussi toute une ambiance des gens autour qui ne réagissent pas à ce qui est en train de se passer.
Alors, effectivement, pour qu'une chose aussi violente se passe, il y a plusieurs niveaux. Déjà, on le voit dans l'exemple, ni les mots ni le corps de la jeune fille lui appartiennent, ni sa subjectivité dans un premier temps. Et ensuite, effectivement, autour, il y a il y a les parents qui sont censés protéger les enfants et les adolescents d'une telle violence et d'une telle dépossession, d'une telle destruction, et qui parfois ne le font pas. En tout cas, ne le font pas complètement. Et puis, il y a aussi la société autour qui, elle aussi, a une responsabilité collective par rapport aux enfants et aux adolescents et qui doit non seulement aider les parents à faire ce travail de protection, mais même permettre que les parents n'autorisent pas ce genre de violence et de destruction. Donc il y a plusieurs niveaux et effectivement il y a toujours des failles dans ces différents niveaux pour qu'une telle violence advienne.
Et puis une société qui parfois est surprise de la réaction d'un de ses membres. C'était par exemple sur le plateau d'Apostrophe en 1990 l'écrivaine Denise Bombardier.
Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a un certain aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux messieurs attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles, ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre les adultes et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup? Moi, je crois que ces petites filles-là sont flétries, et la plupart d'entre elles flétries peut-être pour le restant de leur jour.
Voici ce que disait donc Denise Bombardier sur ce plateau d'Apostrophe avec Gabriel Matzneff, c'était en 1990. Elle n'utilisait pas ce terme d'emprise, elle disait abus de pouvoir. Est-ce que selon vous, c'est à peu près la même chose, Marie-Rose Moreau?
Alors, c'est sans doute pas tout à fait la même chose, mais entre adultes et enfants, et entre adultes et adolescents, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'emprise, la notion de hiérarchie et la notion de machisme aussi apparaissent. Et c'est ces différences-là, ces éléments-là du contexte qui permettent cette emprise d'un monsieur sur une jeune femme. Et effectivement, je trouve qu'elle a très bien nommé, en tous les cas, un des mécanismes importants de la destruction.
Zoé Royaux.
Oui, la loi ne parle pas d'abus de pouvoir, mais elle parle d'autorité de fait ou de droit qu'un adulte peut avoir sur un mineur, de la contrainte morale aussi, et que récemment, elle a caractérisé notamment par la différence d'âge ou la vulnérabilité particulière d'un enfant. C'est très important parce qu'on a dit effectivement que les victimes, et c'est ce qui participait aussi de ce silence, avaient honte, elles se sentent coupables aussi, elles ont l'impression, elles interrogent en fait leur comportement, pensant avoir déclenché l'attitude de celui qui est en face d'elles, qui, pardon, les mots ont un sens, cet homme, Mazenef, n'est pas un mentor, en fait c'était un pédophile, et il faut être très clair sur le fait qu'à l'époque, déjà en 90, la France ne légalisait pas les rapports sexuels entre une fille de 14 ans, une enfant de 14 ans et un homme de 50 ans, même d'ailleurs un homme de 20 ans, enfin je veux dire, on ne couche pas avec des mineurs en toute impunité. Et ce que je trouve terrible, simplement, c'est très bien d'avoir passé l'extrait de Denise Bombardier, qui est une femme formidable, mais elle pense ce que n'importe qui devrait penser. Ça nous paraît révolutionnaire ce qu'elle dit quand on voit tous ces gens qui se gaussent sur le plateau, dont Bernard Pivot, hein, c'est terrifiant de voir à quel point on est content d'entendre les récits de cet homme sur ce que Bernard Pivot appelle des minettes, et tout le monde trouve ça formidable. Lui se qualifie de Don Juan ou de Casanova, enfin c'est déplorable. Et elle a raison, elle dit, Monsieur Mazenef est pitoyable. Et c'est vrai, et c'est surtout un pédophile. Enfin, c'est comme ça que la loi le qualifie. Et si jamais il avait pu être jugé, c'est ce que la loi aurait pu qualifier.
Alain Ferrand, sur ces questions d'emprise et telles qu'elles sont vues par la psychanalyse, justement, vous parliez tout à l'heure de la question de la tyrannie, mais aussi de l'ambivalence, ce que raconte très bien aussi Vanessa Springora dans son livre, donc Le consentement, c'est justement ce rapport ambivalent où elle ne sait plus exactement où elle se trouve, elle ne sait plus ce qu'elle est. Elle dit un jour, je suis une déesse, je suis changée en déesse par celui qui me regarde, il porte les yeux sur moi, et à partir de ce moment-là, j'existe alors que je n'existais pas, etc. Et elle dit, quand elle sort et quand elle va vers la déprise, elle dit, je suis encore ambivalente, je n'en ai pas fini avec l'ambivalence. Alain Ferrand.
Oui, parce que toute l'activité du pédophile, de celui qui exerce son emprise sur la jeune adolescente ou sur le jeune enfant, c'est une activité de vampirisme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le Gabriel en question se nourrit en quelque sorte du narcissisme, de l'estime d'elle-même, de cette jeune fille. Il lui pompe son oxygène, il lui pompe sa vie psychique à son profit à lui. Et bien entendu, elle, dans cette situation, elle, comme petite fille, comme jeune fille, elle se sent aimée, adorée, adulée par cet homme respectable. C'est une situation effectivement terrible, parce que lorsque l'emprise cesse et qu'elle commence à s'en dégager, on comprend qu'elle soit ambivalente, parce que ça lui donnait une certaine identité. Cette espèce de lien avec Gabriel, comme elle l'appelle, GM, il me semble, dans son livre, ce lien lui donnait une certaine force, une certaine présence, une certaine stature. Et elle a beaucoup de mal à perdre cette stature, et je pense qu'il lui a fallu beaucoup d'années pour parvenir à écrire ce livre qui est vraiment le signe de son dégagement. D'ailleurs, autant que j'ai entendu qu'elle avait donné une interview aujourd'hui en disant que elle ne souhaitait pas taper sur Mazenef, que s'il y a quelque chose qui pour elle était terminé. Par contre, comme on vient de le dire maintenant, comme vient de le dire Zoé Royaux, ce qu'elle interrogeait, c'était le silence de l'environnement, le silence des médias, ce qui a permis que ces choses-là soient dites, par exemple dans cette émission avec Bernard Pivot. Mais je pense qu'il lui a fallu des années pour arriver à publier enfin ça, le dire, le partager, sortir de la honte, en quelque sorte.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
France Culture.
Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping.
Le temps du débat.
And the vision that was planted in my brain.
Emmanuel Laurentin.
Still remains within the sound of silence.
18h44 sur France Culture, vous écoutez Le Temps du Débat. Qu'est-ce que la notion d'emprise apporte à la compréhension des violences faites aux femmes? C'est le thème du jour avec Zoé Royau, Alain Ferrand, Marie-Rose Moreau et Bérangère Couillard. Et vous venez d'entendre un extrait de la chanson The Sound of Silence, bien entendu, reprise par Nouella. C'était utilisé dans la bande originale du téléfilm L'Emprise, diffusé en 2015 et qui avait été réalisé par Claude-Michel Rome, d'après l'autobiographie acquittée d'Alexandra Lange. Si on réfléchit à cette question, Marie-Rose Moreau, on se dit, il y a ce temps de la révélation qui vient d'être évoqué par Alain Ferrand, révélation à soi-même de ce que l'on a vécu, révélation aux autres de ce qui a été vécu par soi-même. Ça prend du temps, en l'occurrence 35 ans à peu près, ou 30 ans, pour le cas de Vanessa Springora, mais pour Adèle Haenel, c'est beaucoup d'années également, par exemple, pour pouvoir se dire ce que j'ai vécu, c'est une emprise.
Oui, c'est ça. Il y a une temporalité longue de la blessure, on va dire. Et Denise Bombardier le disait déjà. C'est des blessures qui viennent s'inscrire dans le développement, hein, puisque par exemple pour une jeune fille de 14 ans, donc c'est une adolescente, et il faut arriver.
Elle est à la fois appelée par son amant, mon enfant chéri et ma belle écolière, et en même temps ma déesse. Donc il y a effectivement largement de contradictions, puisque on fait l'amour à son enfant chéri et sa belle écolière.
Bah oui, ça, c'est les contradictions et les paradoxes ne manquent pas. Mais je disais qu'il faut sortir de l'idée que dans des situations de pédophilie, il y aurait une dimension initiatique entre l'adulte et l'enfant. C'est bien d'autres choses dont il s'agit, et c'est en tous les cas d'une violence, et d'une violence qui vient effectivement s'inscrire tout de suite, parce que on peut pas anticiper les effets, l'inquiétude, l'angoisse, la honte, la culpabilité, les symptômes du corps, l'anorexie, enfin il y a le suicide, les symptômes sont extrêmement importants dans le moment, à moyen terme et à long terme. Et ensuite la reconstruction, eh bien elle doit elle doit défaire l'ensemble de ces processus qui ont été blessés. C'est une blessure, c'est comme une blessure qui touche le corps à différents niveaux, et il faut tout reconstituer, y compris la confiance dans les adultes qui ont lâché cette jeune fille et qui l'ont laissée dans cette situation d'emprise.
Zoé Royau et les autres participants à ce débat, il y a tout de même cette question de comment détricoter cette relation perverse qui a été instaurée par ce tyran dans la relation de l'emprise conjugale ou de l'emprise justement d'un adulte sur une enfant.
Le rôle de la justice, c'est de prendre le relais. Tout à l'heure, ce mot a été lâché de la lâcheté collective, en fait, le silence, les gens qui détournent les yeux, qui trouvent ça soit drôle, soit pas si grave, soit un peu chic. C'est ça. Je pense que c'est tout le monde doit se sentir concerné, et en tout cas pour le domaine qui est le mien, c'est la justice qui doit prendre le relais. C'est les policiers et les gendarmes qui donnent du crédit à ce que la victime peut dire. C'est les proches qui peuvent noter. Alors les violences psychologiques, c'est évidemment difficile de les identifier, mais c'est cette présence-là. Et puis c'est les magistrats qui doivent y répondre aussi de manière adaptée et de manière rapide. Et donc ça veut dire, et c'est un peu pour poursuivre le travail du Grenelle, ça veut dire qu'on a besoin de moyens humains, de moyens financiers, et donc de former aussi les professionnels qui soient aptes à comprendre ce que la victime peut vivre et dénoncer.
Bérangère Couillard.
Oui, moi je partage tout à fait les propos de Zoé Royau. C'est justement ce qui a été décidé, hein, à la suite du Grenelle des violences conjugales. Il va y avoir donc la mise en place d'une formation continue pour les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, il y a eu une formation commune qui a été mise en place pour les forces de l'ordre et les avocats. Donc ça a déjà commencé. 130 heures de formation pour les polices et les gendarmes, donc pour toutes les forces de l'ordre. Et puis on parlait tout à l'heure de la justice avec la formation des magistrats. Donc c'est du coup la ministre de la Justice qui a annoncé qu'il allait avoir donc à chaque mutation des magistrats une formation donc pour les magistrats. Donc les magistrats, faut savoir qu'ils changent d'endroit tous les 2-3 ans. Donc on va dire que à l'horizon de 5 à 6 ans, tout le monde aura été formé, quoi. Donc c'est déjà une grande avancée, et évidemment il faut que tous les acteurs qui sont en contact avec les personnes, parce qu'il y a des femmes et également des hommes qui sont victimes de violences conjugales ou victimes en tout cas qui sont sous emprise, puissent du coup être formés à la notion d'emprise, mais aussi sur l'ensemble des choses qui font qu'il y ait des violences conjugales.
Je vous propose d'écouter un extrait du témoignage que Adèle Haenel donnait à Mediapart le 4 novembre dernier.
Et disons que au début de cette année, j'ai vu un J'ai vu un documentaire sur Michael Jackson qui s'appelle Living Neverland et qui me fait changer de perspective sur en fait ce que j'avais vécu, parce que j'ai compris qu'il s'agissait pas qu'une histoire privée en fait, mais que c'était une histoire publique et que peut-être que j'avais adhéré à la version de Christophe Ruggia et qui qualifiait cette histoire d'histoire d'amour, même si enfin moi j'y avais jamais vraiment cru intimement, je veux dire, mais c'est quelque chose qu'il m'avait raconté et que, du coup je m'étais dit bon ben voilà, c'est différent. Et quand j'ai vu le film Living Neverland, j'ai pas pu m'empêcher de voir des mécanismes d'emprise et de fascination qui ont été complètement à l'œuvre aussi dans mon histoire.
Oui, Alain Ferrand, c'est aussi cela, c'est comment se révéler, comme on le disait tout à l'heure à Marie-Rose Moreau, ce que l'on a vécu, comprendre ce que l'on a vécu, mettre des mots dessus pour pouvoir en parler aussi et en parler pour soi-même, mais en parler aussi pour les autres, comme le disait à l'instant Adèle Haenel.
Oui, parce que le résultat de ces conduites d'emprise pathologiques, c'est de tordre en quelque sorte la vie psychique de la victime. Et ces torsions accumulées, comme dans le cas de Vanessa Springora, c'est-à-dire il faut détordre point par point. Elle n'est pas une déesse, elle n'était pas une simple écolière, c'est une petite fille, etc. Il faut refaire un petit peu. Et ça, c'est un travail individuel qui peut y aider. Donc j'entends bien que la question de la justice est importante, elle est essentielle, mais elle ne suffit pas. Il faut faire un travail qui est un travail individuel, qui va permettre de dire la honte, de raconter ce qui s'est passé et de rencontrer le regard d'autrui, un regard avec qui on va pouvoir partager quelque chose. Mais ce qui est encore plus remarquable, j'allais dire, c'est que dans toutes ces affaires d'abus, etc., c'est le phénomène MeToo qui a été essentiel. C'est-à-dire que des femmes ont pu dire « moi aussi ». Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et pour sortir de la honte, il faut véritablement convoquer le regard d'autrui, il faut dire, il faut partager ces situations. Et c'est ce qui se passe avec Vanessa, c'est ce qui se passe avec d'autres femmes, des centaines de femmes hein, qui utilisent le moyen MeToo pour dire, ben voilà. Et c'est ce partage qui permet, non pas de guérir la honte, parce qu'on ne guérit pas de la honte, mais de la dépasser, de l'intégrer, d'en faire quelque chose, de ne plus se sentir complètement abruti en quelque sorte parce qu'on a vécu et de ne pas oser se regarder en face. Voilà comment on peut en sortir. Je pense que c'est par le partage et la publication.
Marie-Rose Moreau.
Effectivement, le niveau collectif de la loi, la reconnaissance donc de la société aussi de ce qui a été vécu. Et c'est vrai que c'est les mots que ce n'est pas qu'une affaire privée. Les mots qui ont, c'est aussi une affaire publique et une affaire collective. Donc la loi et la reconnaissance disent ce qui s'est passé. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça permet, ça aide à la reconstruction individuelle. Mais il faut le dire aussi, on peut se reconstruire. Hein, c'est bien aussi pour ça que la loi est si importante, parce que une fois que les choses sont reconnues, on peut, à l'intérieur de ça, une fois qu'on sait qu'on a été victime, reconstruire patiemment et effectivement avec bienveillance et avec des gens qui peuvent aider à la reconstruction de tous ces niveaux-là et de la confiance que, par exemple, pour les adolescents, ont envers les adultes et le monde. Ça, c'est très
important.
C'est
ce que dit Vanessa Springora quand elle fait son chapitre 3, s'appelle l'emprise, son chapitre 4 s'appelle la déprise et son chapitre 5, je crois, s'appelle l'empreinte. C'est-à-dire aussi l'empreinte lointaine de ce que l'on a vécu lorsqu'on était sous emprise. Zoé Royaux.
Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a tout un processus en fait, c'est-à-dire que la justice, c'est vrai, n'a pas une vocation qui serait thérapeutique et qui serait tout d'un coup qui soignerait tout. C'est important que la justice donne à chacun officiellement un rôle. Toi, tu es victime, tu n'y es pour rien. Toi, tu es l'auteur et tu seras sanctionné. La peine ne sera jamais à la hauteur de ce qui a été vécu et du traumatisme. Et c'est pas tellement le rôle de la justice non plus. C'est pas de la vengeance, la justice. Et les victimes viennent pas pour ça. Mais c'est un processus qui démarre à partir du moment où la plainte est déposée, des mots sont posés, un tiers est informé de ce qui s'est passé. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur l'importance de la formation des professionnels de la justice et notamment des policiers et des gendarmes pour recevoir convenablement la plainte de la victime et leur donner confiance. C'est la confiance, vous parlez de la confiance dans l'adulte et c'est la confiance dans l'autre aussi d'être reconnu ab initio. Puis après, il y a un processus qui se fera avec des psychologues et des psychiatres de reconstruction de soi avec déjà cette force. On ne se rend pas compte de la force qu'il faut aux victimes pour aller déposer plainte et poser des mots sur ce qu'elles ont vécu et passer outre la honte et la culpabilité aussi et l'incompréhension.
Ça veut donc dire, Bérangère Couillard, qu'en rédigeant cette nouvelle loi, en travaillant justement sur l'inscription de cette notion d'emprise dans le code pénal et dans le code civil, vous devez faire aussi une œuvre de pédagogie en tant que législateur.
Bien sûr, évidemment, et ça, ça concerne évidemment toutes les politiques publiques qui sont menées aussi par le gouvernement. Moi, je tenais à revenir sur le cas de Vanessa Spingora. En effet, il y a une notion d'emprise qui va être importante à définir, mais il y a aussi la loi du 3 août 2018 qui a permis des avancées sur ce sujet avec l'allongement du délai de prescription qui passait de 20 à 30 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec cette loi, normalement, demain, en tous les cas, pour être possible pour les futures victimes, des femmes comme Vanessa Spingora pourront porter plainte, en fait. Et alors qu'aujourd'hui, le délai de prescription est déjà dépassé. Et en effet, parce que en fait, il y a un long processus et il faut que toutes les étapes soient passées pour qu'elles puissent parfois aller déposer plainte et assumer, parce qu'il y a évidemment ce sentiment de honte qui était notamment rappelé par Monsieur Ferrand. Donc je pense que c'est évidemment important. Et puis on permet de mieux punir les viols et les agressions sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans avec cet ajout d'abus de vulnérabilité qui permet en fait de reconnaître la différence d'âge entre un auteur ou une victime ou même l'absence de maturité du mineur qui peuvent en fait suffire à caractériser la contrainte ou la surprise. Et c'était un élément manquant en fait, qui ne permettait pas en fait de constituer en fait le viol. Et donc c'est vraiment des avancées assez considérables qui vont permettre à nombreuses victimes de pouvoir davantage porter plainte, avec évidemment des forces de l'ordre formées, des magistrats formés, tous les acteurs qui sont en contact avec ces personnes victimes de violences, qu'elles soient conjugales ou même sexuelles.
Marie-Rose Moreau.
Oui, la question de la vulnérabilité et l'immaturité du développement des enfants et des adolescents est très importante à prendre en compte et à inscrire sans doute d'une manière ou d'une autre dans la loi. Mais également, ça vient s'ajouter à la notion de consentement qui, chez un enfant et un adolescent, ne peut pas du tout être compris comme chez un adulte.
Et d'ailleurs, une des grandes questions, c'est de l'illusion du consentement.
L'illusion totale du consentement.
Qui marque en réalité la réalité de l'emprise et qui, en fait, et là, on pense qu'on a consenti, qu'on était d'accord, qu'on était complice presque de ce qui s'était passé, et il faut justement sortir de cette illusion du consentement.
Ah oui, c'est non seulement une illusion, mais un grand malentendu, et les prédateurs le savent. Et parfois, les adolescents se font avoir quand même.
Oui, les prédateurs le savent très bien et c'est pour eux ce n'est pas un malentendu puisqu'on sait que la majorité sexuelle est à 15 ans et c'est précisément parce que le législateur considère qu'en dessous de 15 ans on n'est pas en état de consentir parce qu'on n'est pas en état de comprendre ce qui est proposé, ce qui est imposé sexuellement, donc le mineur n'est pas en état de pouvoir dire oui ou non. Et c'est pour ça que quand la députée nous expliquait que la contrainte morale et la surprise avaient été reprécisées par la loi, c'est vrai. Et ce que la loi entend par surprise, c'est pas tout d'un coup le diable qui sort de sa boîte. La surprise, c'est quand le consentement est surpris. Parce que le mineur n'était pas en état de comprendre ce qui allait être imposé par l'adulte qui sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et oui, exactement.
Merci en tous les quatre. Merci à vous, Bérangère Couillard. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de la 7e circonscription de Gironde d'avoir été avec nous au téléphone. Merci à vous, Alain Ferrand, d'avoir été dans les studios de Radio France à Lyon qui vous ont accueilli et vous êtes un des spécialistes français en tant que psychologue et psychanalyste de cette question de l'emprise. Merci Marie-Rose Moreau d'être venue en tant que psychiatre pour enfants et adolescents et chef de service de la maison des adolescents de l'hôpital Cochin pour parler justement de cette relation entre adultes et jeunes enfants. Et merci à vous Zoé Royau, vous êtes avocate et porte-parole de la Fondation des Femmes.
Merci.
Rappelons que demain, Guillaume Erner, dans les matins de France Culture, recevra Vanessa Spingora pour parler de son livre « Le consentement » qui vient tout juste de paraître, qui est paru aujourd'hui en librairie. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André à la technique Pierre Faucillon et à la réalisation Alexandre Manzanares.